On va décortiquer tout ça. Imaginons une seconde être en plein appel vidéo, hyper intime avec un ami proche. Il est dans sa chambre, il raconte sa journée et livre ses états d'âme. Mais en réalité, il diffuse cette conversation à 50 000 personnes en même temps.
C'est un concept assez fou quand on s'y arrête 2 minutes.
Complètement. C'est le grand paradoxe du streaming actuel. Et notre exploration aujourd'hui, notre plongée au cœur de ce sujet, elle s'appuie sur un article vraiment pointu de la revue Digital Wellness. La mission, c'est de comprendre cet équilibre extrêmement précaire entre la fausse proximité qu'offre le direct et l'urgence en fait d'en garder une lecture critique.
Et ce qui rend cette analyse pertinente, c'est qu'elle va bien au-delà du simple constat du temps d'écran. Elle décortique vraiment la reprogrammation de notre rapport au créateur.
Ah oui, cette fameuse reprogrammation.
Exactement. Face à une vidéo classique sur Internet, le montage signale à notre cerveau qu'il s'agit d'un produit fini, un truc réfléchi. Mais en direct, les silences, les petits bugs techniques, les réactions à chaud, ça détruit cette barrière.
Ouais, on voit les coulisses en fait.
Voilà. Et le cerveau interprète automatiquement cette vulnérabilité apparente comme de l'authenticité pure.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on a l'impression d'avoir complètement dépassé l'ère de la télé-réalité des années 2000.
Oh oui, on est dans une toute autre dimension.
À l'époque, on savait très bien que c'était bidon, que c'était scénarisé. Aujourd'hui, sur des plateformes comme Twitch ou Kick, le côté brut vend une sorte de vérité absolue. Alors que le créateur, il maîtrise totalement son angle de caméra, son éclairage et même les anecdotes qu'il choisit de balancer.
C'est tout le paradoxe.
Mais grave, il se crée une relation parasociale totalement asymétrique. Et tout ça est financé par des spectateurs qui sont persuadés, durs comme fer, d'être dans un cercle de confiance intime.
Ce qui est fascinant ici, c'est le piratage direct de notre système d'alerte émotionnelle. Sur le plan de l'évolution, l'être humain n'est juste pas équipé pour différencier une spontanéité performative d'une véritable intimité.
Donc on tombe dans le panneau à tous les coups.
Bah ouais. Face à un éclat de rire inattendu ou à un moment de frustration en plein live, nos défenses analytiques s'effondrent. La personne à l'écran, elle est plus perçue comme un influenceur, avec une grosse stratégie de monétisation. Elle devient un membre de la tribu.
Et du coup, son discours passe sans le moindre filtre critique.
C'est exactement ça, il n'y a plus de filtre.
Sauf que si le fil disparaît, le risque explose quand le direct dérape. Tout va à une vitesse folle en live, il n'y a aucun bouton pause avant qu'une provocation ou une humiliation ne soit diffusée en direct.
Zéro filet de sécurité.
Voilà. Cela dit, il y a une vraie question à se poser sur l'origine du dérapage. Le chat en direct, en fait, ça fait souvent penser à une véritable bourse de l'attention.
C'est une super bonne analogie.
Les spectateurs achètent littéralement des actions sur le comportement du streamer via leurs dons. Si le créateur va trop loin, la jauge de dons s'affole à l'écran, on le paye en temps réel pour voir jusqu'où la dinguerie va monter.
L'image de la bourse illustre très bien la transaction, c'est clair. Mais le mécanisme psychologique en coulisses est encore plus pervers. Les algorithmes transforment l'absence de modération en un pur moteur de rentabilité.
Comment ils font ça concrètement?
Eh bien, lorsqu'une provocation génère d'un coup une avalanche de microtransactions et de notifications visuelles partout sur l'écran, le cerveau du créateur reçoit une énorme décharge de dopamine immédiate.
Ah oui, le système de récompense tourne à plein régime?
Voilà. Ce n'est pas juste le public qui pousse au crime, en fait. C'est toute l'architecture de la plateforme qui conditionne chimiquement le créateur. Ce qui était autrefois une ligne rouge infranchissable devient simplement le tarif de base pour maintenir l'engagement.
Et ceux qui absorbent ce nouveau tarif de base, ce sont majoritairement les plus jeunes qui sont complètement exposés à ces standards extrêmes. Ce qui nous amène direct à la guerre ouverte entre les plateformes elles-mêmes.
Une guerre très polarisée, d'ailleurs.
Totalement. D'un côté, Twitch essaie de limiter à casse avec des règles de modération strictes. De l'autre, on a Kick qui se construit littéralement sur la promesse inverse, une dérégulation quasi totale. Si l'économie de Kick prouve que le chaos et le fait de toujours repousser les limites sont massivement plus rentables pour faire affluer les clics, on a du mal à voir comment Twitch pourra garder ses créateurs sans s'aligner par le bas.
C'est le grand risque.
Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire, au fond? Est-ce que la modération, c'est un modèle économique voué à l'échec?
Si l'on relie ça à la vision globale, le clivage est avant tout financier, pas juste idéologique. Kick ne se contente pas d'offrir moins de règles, la plateforme aspire les créateurs en leur proposant de garder jusqu'à 95% de leurs revenus.
95%, c'est un argument de poids.
C'est massif par rapport à la concurrence. C'est une architecture conçue de A à Z pour récompenser financièrement la transgression. Néanmoins, il faut quand même garder de la nuance.
Bien sûr, tout n'est pas noir.
Exactement. Le streaming abrite aussi des communautés d'entraide incroyables, des espaces créatifs très sains. L'enjeu n'est pas de déserter ces espaces, mais plutôt d'apprendre à décoder la mécanique économique qui tourne en arrière-plan de ce qui ressemble à une simple soirée de chill entre potes.
En fin de compte, c'est un outil d'une puissance sociale phénoménale, à condition de ne jamais oublier que l'intimité qu'on nous propose reste une mise en scène hautement monétisée. Et ça laisse une ultime pensée assez troublante à digérer pour conclure cette réflexion.
Oui, l'article soulève un point majeur à la fin.
Les streamers sont devenus les nouveaux modèles d'interaction sociale par défaut. Si la surenchère permanente, les raids virtuels et la provocation financée par la foule deviennent la grammaire de base de millions de spectateurs chaque soir...
La question se pose.
Est-ce que ces dynamiques algorithmiques finiront un jour par dicter les propres normes d'interaction de notre monde physique ? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde.